Alors, 7h55, les amis, Denis Gravel qui s'amène en studio. Donc, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le Pit Stop, on en a déjà pas mal, mais s'il y a des choses qui vous ont marqué en fin de semaine dans la ville de Québec principalement, peut-être juste nous texter au 88-971-101, 88-971-101. Officiellement, bon mardi, on n'est pas lundi, on est mardi, on est le 7 avril 2026. C'est plein soleil sur Québec, donc on profite de cette belle lumière-là aujourd'hui. C'est un moins 9 degrés actuellement, maximum de moins 1 pour ce qui est d'aujourd'hui. Ce soir, cette nuit, ciel dégagé, minimum de moins 15. Et demain, mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de plus 3 degrés.
L'heure de pointe qui s'installe pour de vrai, tranquillement, pas vite. Henri IV Sud, hauteur de la route Sainte-Geneviève, ce sera compliqué par un accident qui fait que la voie de droite est bloquée actuellement. Sinon, quand tu roules vers Shannon, dans le coin de l'entrée de la base militaire, solide ralentissement. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, au rouge foncé. Capitale-Ouest, par bout, entre Seigneurial et Laurentienne, quand même des ralentissements considérables aussi. 40 Est entre Duplessis et Henri IV, c'est au rouge, tout comme les deux ponts direction nord, là, assez compliqué.
La course à la direction de la Coalition Avenir Québec s'est déjà commencée depuis quelques semaines. On a Christine Fréchette et Bernard Drainville qui sont dans cette course-là. Et chose assez particulière, c'est que la personne qui va gagner la chefferie de la Coalition Avenir Québec va devenir automatiquement premier ministre ou première ministre du Québec.
Très gros enjeu.
Donc, c'est une course qui est quand même assez importante. Et c'est à partir d'aujourd'hui qu'on va pouvoir voter. Là, si vous avez vos cartes de la CAQ, vous allez pouvoir voter à partir d'aujourd'hui. Et c'est dimanche qu'on connaîtra la gagnant ou le gagnant qui deviendra premier ministre ou première ministre du Québec. Et il y a déjà des candidatures, pas des candidatures, mais des appuis qui ont été donnés dans les dernières semaines. Et dans les dernières heures, on a appris que Simon-Jolin Barrette, Jonathan Julien, qu'on connaît bien ici à Québec, et la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, ont donné leur appui à Bernard Drainville. Est-ce que c'est trop tard dans la course? Est-ce que ces gens-là ont décidé de regarder comment ça se passait pour finalement se faire une tête à savoir pour qui allait voter à la toute fin? Bref, on en jase avec Sonia Bélanger, qui est la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Madame Bélanger, bon matin, merci d'être là.
Oui, bon matin à vous deux.
Pourquoi avoir attendu si longtemps, Mme Bélanger, pour donner votre appui?
Ben, vous savez, au mois de décembre dernier, là, j'ai été assermentée comme ministre de la Santé. J'étais déjà ministre des Services sociaux des aînés. J'avais une tâche importante devant moi, notamment avec le projet de loi que j'ai déposé pour les médecins, l'entente avec la FMOQ. Écoutez, ma cour était pleine, comme on dit. J'avais beaucoup, beaucoup de travail. Et je ne voulais pas être distraite par rapport à ce que je devais accomplir rapidement là, dans les premières semaines de mon entrée en fonction comme ministre de la Santé. Et puis j'ai dit finalement à mes deux collègues que je resterais neutre. Et c'est ce que j'ai fait vraiment jusqu'à hier. Vous avez vu, là, j'ai changé d'idée en fait au courant du week-end.
Et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez changé d'idée?
Ben, naturellement, j'ai suivi les débats de façon très, très attentive. Dimanche dernier, j'avais organisé dans ma circonscription, dans les Laurentides, une rencontre donc individuelle, une heure avec Christine Fréchette et les membres de mon comité d'action locale, puis une heure avec Bernard. Et j'ai vu, là, en fait, là, vraiment les deux personnalités, hein, ça saute aux yeux. On a deux excellents candidats, mais qui sont tellement différents. Et puis, je pense que ça a parlé beaucoup aux membres de mon comité, notamment, mais aux participants qui étaient présents. Et puis, je vous dirais que ce qui m'a vraiment, vraiment décidé, c'est jeudi, le départ de M. Legault. Et j'ai été très, très émue de tous les hommages qu'il a reçus, grandement mérités d'ailleurs. Et puis, le fil conducteur des hommages à M. Legault, c'est comment M. Legault aimait profondément le Québec. Et le legs qu'il a fait en créant une troisième voie, et je pense que c'est Bernard Drainville qui peut continuer de renforcer cette troisième voie au Québec.
On a toujours eu l'impression, depuis le début de cette course-là, que c'est Christine Fréchette qui était pressentie par les hautes instances du parti. Elle partait avec une longueur d'avance. Elle représente la continuité de la Coalition Avenir Québec, tandis que Bernard Drainville répète un peu ce que François Legault mentionnait en 2017. Donc, faire le ménage au gouvernement, essayer de faire le ménage aussi dans les dépenses. Bon, il y a certaines idées qui diffèrent, bien entendu, mais en gros, ce qu'on entend de Bernard Drainville, c'est un peu les promesses non remplies de François Legault en 2017 lorsqu'il voulait être premier ministre du Québec. Est-ce que c'est ça qui vous attire du côté de Bernard Drainville? C'est un peu de la droite économique?
Bien, on voit là qu'il y a comme une espèce de rapprochement vers la droite économique. Puis moi, ça me plaît. Ça correspond à qui je suis, à mes valeurs. Et il y a une chose qu'il faut quand même mentionner. Bernard a mentionné qu'on n'avait pas réalisé tout ce qu'on avait promis, notamment l'efficacité de l'État. Alors oui, il reprend cet élément-là qui est tellement important. Bernard a fait une campagne axée sur les jeunes, axée sur les familles. Il arrive avec des propositions extrêmement importantes, notamment pour les jeunes et les familles, pour l'accès à la propriété. Je donne cet exemple-là. Alors, il amène aussi de nouvelles idées, mais il revient sur qui nous sommes réellement. Et ça, c'est important. Il est capable de s'assumer. C'est un homme qui est courageux. Il sait parler aux Québécois et il sait parler pour les Québécois.
Est-ce que les sondages vous affectent, Madame la ministre? Parce que là, on voit, là, la Coalition Avenir Québec, ça semble pas pour l'instant être le choix des Québécois. On regarde sur Québec 125 les intentions de vote des Québécois, puis il y a plusieurs députés de la Coalition Avenir Québec qui disparaîtraient de la carte s'il y avait des élections demain matin. C'est-tu quelque chose qui vous stresse? Puis en même temps, est-ce que vous aviez l'intention de vous représenter aux prochaines élections?
Ben oui, ben écoutez, certainement, je me représente. Vous savez, moi, en 2022, j'ai pris ma retraite du système de santé.
Beaucoup trop jeune.
Écoutez, non, j'avais le goût de faire d'autres choses. Et finalement, j'ai eu cette possibilité d'aller en politique et de me faire élire. Et puis, j'adore ce que je fais. J'ai encore beaucoup à donner. Alors oui, je me représente. J'ai eu l'occasion de le mentionner. Est-ce que je suis inquiète par rapport aux sondages? Vous savez, non, je suis pas inquiète. C'est sûr que j'aimerais mieux que les sondages soient en notre faveur, mais vous savez, on vote pas pour un sondage. On vote pour un homme, pour une femme, pour des idées, pour une équipe. Alors, moi, je veux pas me laisser distraire par les sondages. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que Bernard Drainville, c'est la personne qui va performer au débat des chefs. Vous savez comment c'est important, un débat des chefs, hein? Très souvent, les Québécois, Québécoises, on suit ça de très près, et c'est très souvent un moment tournant dans nos prises de décision individuelles. Bernard, c'est l'homme qu'il nous faut, et je suis confiante que dimanche prochain, on aura notre chef qui sera là. C'est un moment tournant pour nous. Les votes, dans le fond, débutent aujourd'hui jusqu'au 12 avril. Puis c'est les membres, il faut pas oublier, ce sont les membres, 20 000 membres de la CAQ qui vont voter. Alors, on va suivre ça de très, très près cette semaine.
Madame Bélanger, moi et Jeff, on a plein de sujets à aborder avec vous. Je vais commencer par un dossier qui est très cher à mes yeux, le décès de la petite Chloé à l'hôpital de Gatineau. J'imagine que vous n'avez entendu parler de cette petite fille de 4 ans qui est malheureusement décédée en raison d'une crise d'asthme quand même assez sévère. Sa mère avait fait une sortie quand même assez virulente sur les réseaux sociaux, comme quoi ça manquait un petit peu d'empathie. Est-ce que vous avez suivi le dossier avec une grande attention? Puis pourquoi on n'a pas entendu parler dans les derniers jours à l'Assemblée nationale?
Bien, écoutez, d'abord, oui, je suis très au courant de ce dossier et c'est vraiment extrêmement préoccupant ce qui s'est passé, extrêmement touchant d'avoir vu le témoignage de la maman, de la petite fille qui était dans ses bras. Vous savez, j'ai demandé naturellement, dès que j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai demandé à Santé Québec un état de situation. Je suis cela de très près. Il y a une enquête du coroner.
Est-ce que vous n'avez parlé ouvertement dans les médias de cette cause-là?
J'ai pas été questionnée là-dessus, vous avez raison. Ni au Salon Rouge, ni dans les médias. Je n'ai pas été vraiment là, questionnée à ce sujet-là.
Parce que je vais vous avouer, mais... moi, je, Michael Rousseau, ouais. Là, je, personnellement, puis vous m'excuserez l'expression, Madame la ministre, mais j'en ai rien à battre. Là. Moi, c'est le cas de nos enfants ici au Québec. Puis quand je vois que la petite Chloé est décédée, ça m'a beaucoup, c'est beaucoup venu m'interpeller en tant que père de famille. Puis je pense que je ne suis pas le seul. J'aurais aimé ça qu'on en parle à l'Assemblée nationale.
Oui, mais oui, vous avez raison, mais j'ai pas été questionnée là-dessus. Vous savez comment ça fonctionne quand on est au Salon Rouge, la période de questions, ben c'est une période qui est dédiée aux oppositions, qui posent des questions, donc c'est eux qui déterminent, dans le fond, l'ordre des priorités, des questions que les trois partis d'opposition et les indépendants veulent bien nous poser. Mais ça n'empêche pas, je veux quand même juste vous dire, j'ai été extrêmement touchée, préoccupée, révoltée en quelque sorte par ce que j'entendais, puis mes sympathies à la maman. Et vraiment, moi j'attends les recommandations du coroner et je vais suivre cette situation de très près. Que le décès soit survenu dans une salle d'urgence, ça pose des questions. Ça pose des questions.
Parlant des urgences, Mme Bélanger, excellent dossier dans le Journal de Québec, Journal de Montréal aujourd'hui, où on parle de personnel, que ce soit des médecins ou des infirmières qui sont apeurés de travailler à l'urgence, énormément d'objets violents qui sont saisis, des couteaux, des fusils à plomb. Il y a une hausse drastique. Comment vous allez rassurer ce personnel-là?
Oui, mais dans les salles d'urgence, effectivement, là, c'est un lieu... où il y a beaucoup de risques, on va le dire comme ça, parce que bon, ce sont des gens qui arrivent, qui sont malades, qui arrivent souvent avec des personnes aussi qui peuvent être anxieuses, angoissées, qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale. On a des personnes en situation d'itinérance, en situation de crise. Alors, c'est un lieu où, naturellement, il peut survenir différents incidents, différents accidents. Il faut travailler en prévention. C'est pour ça que dans plusieurs salles d'urgence au Québec, il y a maintenant des agents de prévention, des agents de sécurité.
Allez-vous l'obliger pour toutes les salles d'urgence au Québec?
Ben, il faut être prudent par rapport à ça. J'évite d'avoir des solutions mur à mur là, pour l'ensemble des salles d'urgence au Québec. Chaque direction d'établissement doit s'assurer de mettre les ressources nécessaires, de soutenir les infirmières, les préposés, les médecins qui sont dans les salles d'urgence. Ça passe par des mesures de sécurité, des agents de sécurité notamment, mais ça passe aussi par renforcer les équipes. Parce que vous savez, quand les équipes courent, qui sont à bout de souffle, que l'organisation du travail n'est pas optimale, ben ça aide pas non plus à vivre des situations et à assumer toute cette charge de stress là qui vient avec le travail qu'on connaît habituellement dans une salle d'urgence. Alors il faut des équipes cliniques suffisantes, faut s'assurer d'avoir une stabilité dans le personnel, très important. C'est pour ça aussi, vous savez que on a réussi au Québec à se départir des agences privées de personnel. Ça aide beaucoup parce qu'on retrouvait du personnel d'agence, notamment dans les différentes salles d'urgence au Québec. Alors, il y a plusieurs éléments qu'il faut regarder, mais c'est très, très important. Et on le voit, là, il n'y a pas un mois où il n'arrive pas une situation. Des programmes de prévention, d'accompagnement du personnel, très important.
Je ne sais pas si vous pouvez vous remettre à l'endroit où vous étiez tout à l'heure. Je suis en train de perdre la communication avec vous, Mme Bélanger. Mais quand vous dites ça l'a beaucoup aidé, on comprend que ça a beaucoup aidé, mais concrètement, pour ce qui est de l'accès à l'urgence, les temps d'attente, on semble pas avoir nécessairement progressé. Bon, pour ce qui est de la sécurité du staff en place, on s'entend, là, on peut pas avoir de demi-mesure. C'est important que ces gens-là travaillent dans un climat qui est sécuritaire. Bon, pour ce qui est de renforcer les salles d'urgence avec des agents de sécurité, c'est tel que tel. Mais de voir que certains infirmiers disent « ben moi, j'ai été obligé d'utiliser mon karaté pour défendre le staff qui était dans la place », je veux dire, il y a toujours bien des limites, là. C'est des infirmiers, c'est des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des médecins. Il y a un urgentologue qui est venu faire un tour sur nos zones il y a de ça quelques temps, qui nous avait mentionné qu'elle était enceinte, puis elle a reçu un coup de pied dans le ventre de la part d'un patient qui était en crise. C'est jamais des choses qu'on souhaite pour notre personnel soignant.
Ben, non, non, tout à fait. Puis, écoutez, là, je pense que ce que je vous mentionnais tantôt, c'est très important que les équipes qui travaillent dans les salles d'urgence soient en quantité suffisante, c'est-à-dire le nombre, le bon nombre de personnel par quart de travail, mais aussi du personnel qui est formé. Donc, très important. Je vous mentionnais tantôt, je pense que la communication n'était pas très bonne, mais qu'on a travaillé pour faire en sorte de stabiliser le personnel dans les salles d'urgence, d'avoir toujours les mêmes personnes. C'est très, très important en termes d'organisation du travail. Alors, on a réussi à se départir du personnel qui venait des agences de placement. Alors, pour assurer justement une stabilité, une meilleure cohésion d'équipe, il y a beaucoup d'éléments à travailler quand on veut parler de sécurité. Ajouter des agents de sécurité, je l'ai mentionné tantôt, bien sûr, mais c'est très, très important que notre personnel soit formé, soit accompagné et qu'il soit en nombre suffisant. Alors, il y a des mesures de sécurité aussi, des lieux physiques à mieux organiser dans certaines salles d'urgence. Alors, les discussions sont faites avec Santé Québec et les différents centres hospitaliers, mais il faut quand même comprendre qu'une salle d'urgence, c'est un lieu où on reçoit des gens qui sont en situation de crise. Alors, ces événements-là peuvent survenir, bien sûr.
Et il ne faut jamais que ça arrive.
Ça peut survenir,
mais il ne faut jamais que ça arrive. C'est un petit peu champ gauche, Madame la ministre, là, mais bon, vous êtes ministre de la Santé, fait que j'en profite un peu. Est-ce qu'on peut rouvrir les asiles pour les gens qui ont vraiment besoin d'aide psychiatrique plutôt que de les laisser dans les rues à chasser des mouches quand il fait moins 40, de faire en sorte que ces gens-là puissent aller faire un tour en toxicomanie ou encore dans l'alcoolisme pendant des mois et des mois? C'est pas la meilleure des idées. On n'est pas capable d'y récupérer, ces gens-là. Est-ce qu'on pourrait pas les encadrer peut-être un peu mieux? La désinstitutionnalisation, ça n'a pas eu l'effet escompté là, quand on regarde ça?
Bien, écoutez, là, vous amenez un sujet qui est extrêmement vaste. On parle ici de personnes ayant un trouble mental, de personnes qui consomment donc des substances, de personnes qui sont en situation d'itinérance. Alors, on le voit, là, il y a une augmentation de l'itinérance au Québec, près de 10 000 personnes au dernier dénombrement. On travaille avec l'ensemble des municipalités. D'ailleurs, ce matin, je suis en route pour une rencontre avec la mairesse de Montréal, justement pour... le dossier de l'itinérance à Montréal, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer la mairesse de Gatineau, en Estrie, à Québec, bien sûr. J'étais présente avec les différents intervenants, notamment à l'Aube-Rivière. Ouais. Alors, écoutez, je suis extrêmement préoccupée par la situation de l'itinérance. On a augmenté notre financement. On doit soutenir nos organismes communautaires. Mais vous savez, la solution, là, ce n'est pas de remettre les gens dans des institutions.
Mais c'est parce que ça fonctionnait à l'époque, Madame la ministre.
On n'est plus à la même époque, là.
Mais c'est parce qu'à toujours refaire la même chose en mettant plus d'argent, c'est pas un peu ça, la folie, de penser qu'on va avoir un résultat différent? On rajoute toujours de l'argent, puis encore plus de monde dans la rue.
Mais soyons prudents là par rapport à ça. Vous savez, la solution pour sortir les gens de l'itinérance, c'est premièrement d'avoir du logement abordable. Donc, d'avoir la possibilité que ces gens-là aient un toit sur la tête. Ça, là, c'est la première condition. Puis avoir un toit sur la tête, c'est pas être dans un institut psychiatrique nécessairement. Donc, des gens qui doivent être dans un logement abordable et qui doivent être accompagnés par des services sociaux. C'est l'autre condition qui est extrêmement importante. Donc, c'est pas seulement de mettre les gens en logement. Alors, il y a deux choses que notre gouvernement fait actuellement. On a, au cours des dernières années, construit plus de 20 000 logements abordables et on continue sur cette voie-là. Il y a plusieurs projets qui sont en cours. Il y en a notamment du côté de Québec aussi. Alors, donc, des projets de logements abordables et des équipes psychosociales qui vont les aider à se réhabiliter. Et on le voit, là, j'ai eu l'occasion d'annoncer plusieurs projets où on voit une équipe avec un psychiatre, des intervenants qui suivent ces personnes-là de près dans leur milieu. Et c'est ça le secret. Ça fait partie des bonnes pratiques. Et on est à la bonne place pour cela. Ça fait partie de nos priorités.
En terminant, Mme Bélanger, si Bernard Drainville est élu premier ministre du Québec, allez-vous justement accorder plus d'aide au milieu communautaire qui était dans un mouvement communautaire à bout la semaine dernière et qui justement travaille énormément avec les gens en itinérance?
Ben, écoutez, vous savez, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'organismes communautaires. Les organismes communautaires font un travail qui est important sur le terrain. Ils travaillent près des populations. Ils connaissent les besoins des personnes. Alors, on est en pleine discussion là, avec eux, ma collègue ministre de la Solidarité sociale, Chantal Rouleau. Donc, travaille ça avec eux. Notre ministre des Finances est bien sensibilisé à la situation et on veut donc continuer de soutenir nos organismes communautaires dans différents domaines, en itinérance bien sûr, mais tout ce qui est aide alimentaire notamment, les organismes communautaires en lien avec la condition féminine. Mm-hmm. Alors, ils sont partout. Ben c'est oui. important. On a doublé leur financement. Ils ont maintenant un financement de 1 milliard 200 millions. Quand on est arrivé en 2018, leur financement était à 400 millions.
Oui, je sais, donc, sauf que le filet social s'est carrément détérioré là, avec tous les gens qui sont à la rue maintenant, les gens qui sont en besoin. Même les gens qui travaillent dans les organismes communautaires vont chercher de la nourriture dans leur propre banque alimentaire. C'est catastrophique. Là.
Oui, ben vous avez raison. On le voit là comment le coût de la vie, l'impact post-pandémie a eu un effet. Puis, vous savez, il y a le gouvernement, il y a les organismes communautaires, il y a les municipalités, mais il y a les citoyens eux-mêmes aussi. Puis, je pense qu'au Québec, on doit aussi se solidariser. Puis, on doit aussi être une société qui vient en aide individuellement. On peut pas tout ramener au gouvernement. Et c'est important. Puis, je dis pas ça pour se déresponsabiliser, là. On est en priorité dans ces situations-là. Mais c'est important que les proches, que les familles, que le voisinage soient aussi fassent partie de la solution comme communauté qui aide. Alors, c'est très, très important. Puis je pense qu'on aura certainement l'occasion d'avoir une grande discussion nationale en lien avec l'itinérance très bientôt.
Madame Bélanger, ça a donc bien été un plaisir de vous parler un matin.
Vous êtes bien gentil, là.
On a fait un beau tour de coffre de char.
Ouais.
Oui, ben écoutez, on se reparlera, là. Il y a beaucoup de sujets en santé, services sociaux, puis les aînés aussi, on n'en a pas parlé, mais ça me fera plaisir de revenir discuter avec vous.
Puis je compte sur vous pour un suivi de la petite Chloé Bélanger qui est décédée à 4 ans dans un hôpital de Gatineau. C'est super important pour nous autres.
Oui, ben merci. Écoutez, bonne journée à vous deux et à vos auditeurs.
Au revoir. Bye-bye. La ministre Sonia Bélanger qui est avec nous, ministre de la Santé et des Services sociaux. On va faire une courte pause. Après la pause, on parle avec Denis Gravel pour ce qui est du Pit Stop. Il est 7h50. Vous avez des choses à nous dire par texto. C'est le 418-971-1021. À la pause, par téléphone, c'est possible aussi de le faire. 418-780-1021.
Henri 4 Nord, sortie boulevard Laurier, c'est partiellement entravé en raison d'une panne. Henri 4 Sud, hauteur de la route Sainte-Geneviève, la voie de droite qui est bloquée par un accident. Fait que c'est sûr que dans ces secteurs-là, il pourrait y avoir des petits problèmes. Encore une fois, ce matin, là, quand tu roules vers Shannon, dans le coin de l'entrée de la base militaire, c'est un solide ralentissement. Capitale Ouest entre Beau-Royal et Laurentienne au rouge. Robert-Brossard-Sud vers le boulevard Le Bourgneuf au ralenti. La 40 Est entre Duplessis et Henri IV, c'est au rouge. Secteur des ponts, ça ne s'est pas rendu à un niveau catastrophique. C'est off depuis tôt ce matin. Ça reste pas nécessairement facile, mais c'est moins pire que je pensais que ça allait être.
Pour nous informer de ce qui se passe,